le Covid a amplifié cette précarité chez ceux qui l'étaient déjà et a même rajouté de nouveaux précaires, tu vois, ceux qui ont perdu leur job étudiant, ceux qui n'ont pas trouvé de stage, n'ont pas trouvé d'alternance, etc. Donc financièrement, évidemment, ça a été compliqué pour beaucoup.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. C'était dans une chambre de 12 pieds carrés au plus, rue Saint-Georges, Québec. Ils étaient là, quatre, buvant, fumant, chantant, riant. Que c'était plaisir à voir. Le cliquetis des verres, le choc des bouteilles, les éclats de voix, les notes plus ou moins fausses de quelques chansons égrillardes, le bruit des pieds battant le parquet. Tout cela se combinait adorablement pour former le plus délicieux tintamarre du monde. C'est ainsi que commence le roman « Le roi des étudiants » de Wenceslas Eugène Dick, publié en 1903. C'est souvent comme ça que l'on se figure la vie étudiante. Un joyeux bazar fait d'amitié, de moments de grande convivialité, des instants avec trois fois rien, des pâtes au beurre dans un studio, des miettes de chips sur une table Ikea et en arrière-fond, une playlist de chansons entrecoupées de publicités parce qu'on n'a pas payé l'abonnement. Mais que devient cette vie censée être simple et rieuse lorsqu'on est soudainement privé de ce qui fait le sel de la jeunesse ? Privé de grandes réunions entre amis, d'embrassades et de spontanéité, privé de job étudiant et donc de la possibilité de remplir convenablement son frigo, la boule au ventre et le ventre vide, face à sa propre solitude, dans une piole qui n'a jamais semblé si étroite alors qu'on arrivait pourtant autrefois à y refaire le monde, assis par terre. Depuis quelques mois, les organisations étudiantes et associations caritatives tirent la sonnette d'alarme, comme on peut le lire dans un article sur l'étudiant.fr à propos de la précarité étudiante. Pendant le confinement, un tiers des étudiants a déclaré avoir rencontré des difficultés financières et parmi eux, un étudiant sur deux les considère plus importantes qu'habituellement, selon une étude de l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, publiée en septembre. La pandémie de Covid-19 a supprimé de nombreux jobs étudiants, par exemple dans le secteur de la restauration. Toujours sur l'étudiant.fr, on peut lire qu'avant même la crise du Covid-19, on estimait déjà à 20% la proportion d'étudiants et d'étudiantes en France à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Dans ce contexte de crise, difficile également d'être systématiquement aidé par les parents ou les proches, qui eux aussi peuvent connaître une baisse de leurs revenus. Mais dans cet épisode, nous allons voir qu'une lueur d'espoir existe, celle de l'entraide qui s'organise sur cette question, des paniers alimentaires aux initiatives solidaires en passant par la bienveillance et le partage d'astuces sur les réseaux sociaux. Vous allez ainsi entendre Tariq Oukil, étudiant en master à la faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier, qui adore cuisiner et a proposé sur Facebook de faire à manger un peu plus que pour lui, histoire de pouvoir remplir les Tupperware de camarades en galère. Mais avant ça, j'ai discuté avec Imen Bounou, étudiante en master de communication dans la banlieue parisienne. Imen est la personne qui se cache derrière les comptes Instagram intitulés « Recettes échelon 7 » et « Ministère 18 mètres carrés ». Suivie par des milliers de personnes, ces pages sont l'occasion de partager avec d'autres étudiants des recettes pas chères. Épinards au curry, riz aux champignons, omelette courgette vache qui rit ou encore chorba. À chaque fois, Imen précise les ingrédients, les étapes de la réalisation toujours simple et accessible même avec peu d'ustensiles de cuisine et le prix approximatif du repas. Je lui ai demandé de me raconter comment elle a eu l'idée de s'autoproclamer, non sans humour, ministre des étudiants et étudiantes fauchées.
Eh bien, toute cette belle histoire, elle a commencé en septembre 2019. Je venais de débuter mon Master 2. Et après toutes ces années d'études toute seule à Paris, toutes ces années où j'ai appris plein de choses, où j'ai dû me débrouiller, parce que à combien de fois je me suis retrouvée le frigo vide ou alors avec une panne de créativité, eh bien, je me suis dit que ça serait peut-être le moment de transmettre tout ce que j'ai appris, autant au niveau de la cuisine, puisque, comme je t'ai dit, moi, je suis étudiante en logement étudiant, donc j'ai les plaques électriques classiques, j'ai pas de four à la base, et je vois que au niveau de la proposition des recettes étudiantes, il y a très peu de choses en fait qui s'adaptent à mon budget, tu vois. C'est soit ça va être simplement des recettes faciles, soit simplement des recettes pas chères, mais jamais faciles, pas chères et en plus sans four. Donc, je décide de répondre à ce problème-là en partageant donc, en premier lieu des recettes, puis s'en est suivi des conseils sur les études, sur l'alternance, bref, tout ce qui entoure finalement la vie étudiante.
Des galères d'étudiants, des recherches d'astuces. Moi, ce que je me dis, c'est que c'est un truc que beaucoup de gens expérimentent. Mmh. Mais toi, qu'est-ce qui fait quand même qu'un jour, tu te dis « Allez, vas-y, je vais en parler sur les réseaux, je vais fédérer autour de ces questions. » Est-ce que tu as senti qu'il n'y avait pas assez de relais, de discussions autour de ce sujet important de débrouille culinaire ?
Ouais, il y en a très peu. Et quand c'est fait, c'est souvent caricatural, tu vois. C'est souvent, on va te faire... Enfin, tu vas avoir un article 15 façons de faire des pâtes différentes pour les étudiants, tu vois. Mais moi, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et donc, j'ai voulu pallier à cette demande-là. En même temps, pour moi, j'estime que... la nourriture, c'est un peu le socle de tous les humains du monde. Si tu manges mal, c'est difficile d'aller bien, tu vois. Et quand tu fais des études et que tu manges mal, c'est compliqué d'assurer à l'école. Surtout qu'il y a des contraintes budgétaires, etc., qui sont particulières. Donc, j'ai vraiment voulu répondre à ça, tu vois. Au départ, je me suis dit, je vais aider mes proches, puis peut-être les proches de mes proches. Et s'en est suivi, au final, à être jusqu'à 146 000 personnes.
Oui, en tout cas, ce qu'on peut analyser quand on voit ce chiffre, c'est que beaucoup de personnes sont intéressées par ces recettes et que du coup, elles rencontrent vraiment, vraiment leur public. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur certaines d'entre elles. Est-ce que tu peux nous dire un peu comme ça de tête des recettes que tu as bien aimé partager avec les autres ?
Je dirais qu'il y avait deux sortes de recettes. Il y a les choses que tu ne peux pas faire par définition avec seulement une poêle et que j'ai réussi à transformer comme les lasagnes ou la pizza que j'ai réussi à proposer donc sans four. Ça a été des choses qui ont plu directement, tu vois, parce que tout le monde rêve de savoir faire une pizza sans four quand on n'a pas de four. Et à côté, t'as des choses qui sont plus classiques, peut-être plus originales, mais qui ont été proposées dans le but de aussi faire manger des plats variés, tu vois. Donc il y a eu des salades, il y a eu une semaine spéciale salade où je présentais différentes versions de salades qui étaient toutes pas chères, toutes rapides, économiques, etc. Ça a beaucoup plu. Et puis après, tu as eu pas mal de plats. J'ai essayé de faire des plats aussi traditionnels, tu vois, puisque moi, je suis marocaine algérienne d'origine. Donc, ça a été aussi l'occasion de faire découvrir des plats qui sont du coup de mes origines, pas très chers et très rapides à faire.
Oui. Par exemple, les feuilles de brique. J'ai vu ta recette de feuilles de brique.
Exactement.
Ouais. Et une autre recette qui m'a plu aussi, qui m'a fait penser à ce que j'ai moi-même pu me préparer aussi quand j'étais étudiante, tu as proposé une recette de raclette bowl. Ouf. Donc ça paraît à raclette ni four, donc juste des pommes de terre, des tranches de fromage, le tout à la casserole. Est-ce que tu as une recette préférée dans tout ça ?
Mais je crois que c'est celle-ci, hein. Parce que je pense que la raclette, ça fait toujours du bien, tu vois. Et le fait d'avoir pu proposer cette recette-là, comme tu l'as dit, qui est juste en fait, c'est un bol où tu mets tout ce qu'il faut dans une raclette, sauf qu'il n'y a pas d'appareil et qu'au final, ça, en bouche, ça a vraiment le goût d'une raclette. Eh bien, ça a été un peu déjà très apprécié et en même temps, c'était hyper plaisant de leur partager ça, tu vois, de leur partager un repas qui fait du bien, surtout en cette période-là. Donc, je pense que c'était vraiment ma recette préférée. Et en plus, elle est trop bonne, accessoirement.
Mais oui, c'est ça. De temps en temps, tu as vraiment juste besoin d'un truc réconfortant. Mmh. Et moi, ça m'était déjà arrivé aussi de me dire, mais j'ai pas un appareil raclette, je vais pas avoir ça dans mon petit studio. Mais en fait, tu peux reproduire ce goût-là en faisant fondre d'une façon ou d'une autre ton fromage, quoi, finalement, sur tes pommes de terre.
Exactement.
Quel genre de réaction tu as eu dans ta communauté ? Est-ce qu'il y a des gens qui, du coup, sur Instagram, t'ont demandé plus de conseils ? Genre, tiens, j'ai ça dans mon frigo, qu'est-ce que je peux faire avec ? Ou est-ce que des gens ensuite te reposaient des questions sur les recettes que tu partageais ?
Oui, évidemment, il y a eu beaucoup de questions. Mais ce que j'ai remarqué rapidement et que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que les gens, eux aussi, voulaient participer, tu vois. Donc, on m'a rapidement envoyé des recettes que moi, je devais soit partager, soit reproduire. Et s'en est suivi à la création d'un groupe Facebook pour qu'eux-mêmes, en fait, puissent se partager leurs recettes, puisqu'il y a eu un véritable... Je pense que la création de ce compte-là, elle leur a montré qu'ils n'étaient pas seuls, donc que ce qu'ils vivaient, c'était tout à fait malheureusement normal, tu vois, d'avoir des difficultés à manger, qu'il n'y avait pas du tout une question de culpabilité ou de Enfin, moi, je leur disais pas que s'ils n'arrivent pas à manger, c'est juste parce qu'ils ne savent pas le faire, tu vois. Ils ne savent pas cuisiner, c'est tout un environnement qui fait que. Et du coup, ils se sont sentis accompagnés et je pense qu'il y a eu une sorte de solidarité entre eux tous. Et comme je t'ai dit, bah, j'ai reçu rapidement plein de recettes. Maintenant, ça roule tout seul avec le groupe Facebook qui se partage leurs bons plans, leurs recettes, etc. La cuisine, c'est du partage. Hein. La cuisine, ça fait toujours du bien et c'est surtout de la transmission. Donc ouais, non, j'en ai reçu plein.
Ce qui est bien quand on se balade sur ton compte, c'est qu'il est très coloré. On se rend compte que d'un plat à l'autre, vraiment, tu cherches à utiliser aussi toute une variété d'ingrédients. C'est, ceci dit, des ingrédients pas très chers. Tu ne demandes pas non plus des épices et plein de trucs super précis venus de boutiques très spéciales. Enfin, ça reste des choses qu'on peut acheter assez facilement. Est-ce que tu as des conseils à donner sur... comment faire des courses de façon assez astucieuse? Est-ce qu'il y a des condiments qui sont pratiques à avoir ou des ingrédients que tu peux cuisiner et décliner dans plein de recettes différentes?
Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est l'organisation. Généralement, quand on fait les courses de manière organisée, ça permet déjà de voir sur l'avenir, tu vois. Donc, éviter le gaspillage, éviter d'en acheter trop ou d'en acheter pas assez. Et quand on s'organise, c'est déjà beaucoup plus clair. Après, pour essayer d'économiser, t'as plein de choses. T'as les marchés qui sont mine de rien pas très chers. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le réflexe d'y aller parce que soit il va être un peu loin, soit voilà, faut se lever tôt, etc. Mais sur le marché, tu trouves pas mal de choses. Il y a des applications maintenant qui te permettent d'acheter des invendus de boutiques, d'épiceries, de supermarchés, etc. Où là aussi, tu peux avoir la chance de tomber sur de très beaux paniers. Sinon, en supermarché, puisque j'ai essayé quand même d'avoir des conseils qui seraient nationaux, tu vois. Tout le monde n'a pas tout goût, tout go, etc. dans sa ville. Eh bien, dans les supermarchés, tu peux prendre des légumes de saison, des fruits de saison. Après, c'est toujours, ça sera toujours assez... voilà, il faut réfléchir. Parfois, il faut faire des choix, mais il y a pas mal de choses. Par exemple, la courgette, tu vois, en automne, les aubergines, le butternut, c'est des choses qui ne coûtent pas très, très cher et qui sont multipliables, tu vois, dans plein de recettes.
Ouais. Et en termes de condiments, est-ce qu'il y a des choses que tu vois, tu as souvent dans ton placard à épices ou à assaisonnement? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça que tu aimes bien utiliser souvent pour donner du goût?
Je cuisine absolument jamais de ma vie sans huile d'olive et sans oignon, parce que ça ne sert à rien, je trouve, de ne pas mettre d'huile d'olive et d'oignon. Et du coup, ouais, pour moi, c'est la base. Et je n'ai jamais trop voulu être compliquée dans les épices parce que... c'est compliqué, en fait, de savoir quelle épice tu veux mettre. Donc, le classique, hein, sel, poivre, citron, paprika et oignon. Et tu arrives à faire des miracles avec ça.
Même juste les deux ingrédients que tu citais pour commencer, donc les oignons et l'huile d'olive, l'un dans l'autre et le tout dans une poêle. Enfin, rien que ça, ça embaume tellement tout de suite la cuisine. Ça ouvre l'appétit instantanément. Moi, ce que je trouve très chouette aussi avec ta démarche, c'est que, en plus de donner plein d'idées de recettes et autres, t'incarnes aussi directement la personne concernée. C'est qu'en tant qu'étudiant ou étudiante, on a envie de te suivre parce que c'est pas un livre impersonnel ou un article écrit par quelqu'un d'une autre génération. C'est, enfin, vraiment, je pense que les gens doivent se dire, Imen, c'est notre pote, quoi. Elle partage vraiment ce qu'elle vit aussi au quotidien. Et tu le fais aussi avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, tu t'as expliqué aussi pourquoi tes comptes s'appelaient Échelon 7 et Ministère 18 mètres carrés.
Ouais,
tu disais dans un post, un référendum a été organisé et vous êtes en grande majorité logés dans des 18 mètres carrés comme moi. La démocratie l'emporte. Et donc, c'est pour ça que tu as appelé ton ministère comme ça. J'imagine que tu as dû prendre beaucoup de plaisir, en fait, à faire tout ça. Enfin, on sent que tu le fais en te marrant énormément.
Ah oui, non, mais moi, je me suis éclatée. Moi, je faisais que de rigoler tous les jours parce que, comme tu l'as dit, en fait, j'avais l'impression, et ça, je leur ai dit à plusieurs reprises, d'être dans une coloc, tu vois, d'être dans une coloc géante où il y a des centaines de milliers de personnes et on vit la même chose. Je pense que le fait que ça soit incarné, déjà, ça a donné de la légitimité. Et en plus, ça a créé une communauté, tu vois. On était vraiment tous ensemble. Moi, j'étais la première personne que tu voyais, tu vois. Mais autour, enfin, il y avait du coup des centaines de milliers de gens et on vivait tous la même chose. Donc, ça a été une aventure humaine, hein, vraiment. Moi, quand je suis partie, on manquait et tout, comme si c'était des potes. Parce que je pense que la galère, ça unit. Et le fait de comprendre, encore une fois, que t'es pas toute seule, ça réchauffe le cœur, tu vois.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie d'arrêter ou en tout cas de laisser juste ce socle de recettes et de ne pas continuer à poster?
Pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Alors là, j'arrive, comme je t'ai dit, à la fin de mes études, donc en master 2. Et je pense que tout le monde sait que les études, c'est hyper prenant, le master avec le mémoire. Et puis en plus, moi, je suis en alternance. Ça a commencé à être un peu lourd à porter, tu vois. Et sachant que moi, j'ai toujours voulu faire les choses avec le cœur et vraiment y mettre toujours le même entrain, le même enthousiasme et le même plaisir, je savais que là, ça aurait été compliqué avec tout ce qui m'attendait au niveau de mes études. Du coup, j'ai préféré arrêter tout en sachant que j'ai vraiment construit ça dans l'idée. J'avais un objectif, je voulais aider. J'estime que c'est fait, tu vois. Maintenant, je pense que je peux passer à autre chose, tu vois. Passer à autre chose, pour moi, c'est aller aider d'autres gens, m'investir dans d'autres projets, tu vois. C'est juste la fin, entre guillemets, de cette histoire-là. Mais je suis persuadée qu'il y en aura encore d'autres et de bien plus grandes après.
Oui, et comme tu l'as dit, cette communauté, en plus, elle continue à vivre puisqu'il y a cette page Facebook avec les échanges de recettes. Tu t'es pas contentée de partager que des recettes puisque donc, tu as aussi mis en ligne des documents utiles pour la vie de tous les jours, donc notamment des bonnes adresses. Un truc que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, tu as publié donc, une feuille de calcul, une espèce de tableur avec des entrées différentes pour que chacun puisse entrer, se faire cette propre fiche perso et donc faire ses comptes mensuels avec une case pour les revenus, une autre pour les dépenses fixes, le loyer, EDF, la carte de transport et tout ça. Mmh. Toi, c'est quelque chose que tu fais au quotidien pour gérer ton budget ?
Pas du tout. Franchement, je l'ai fait pour eux parce que je sais que c'est compliqué de gérer son budget et qu'il y en a qui fonctionnent vraiment que avec l'organisation. Du coup, je l'ai fait pour eux en sachant que ça serait utile. Mais sinon, franchement, je donne des conseils et tout, mais ma vie, elle est peut-être beaucoup moins organisée que la leur.
J'adore. Tu es vraiment une pote jusqu'au bout. Hein. Tu sais, les potes qui donnent des conseils, des conseils trop bien pour leurs amis, mais, mais pas forcément pour eux-mêmes, en fait.
Exactement.
J'avais suivi aussi dans tes stories, à un moment, tu m'avais trop fait marrer. Je ne sais pas trop pourquoi tu voulais goûter du cacolac. Je crois que tu n'en avais jamais goûté de ta vie.
Oui. Non.
Et tu as fait appel à ta communauté parce que tu n'arrivais pas à l'ouvrir. Parce qu'en fait, il faut un décapsuleur pour ouvrir une bouteille de cacolac. Et tu disais...
Moi, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Et du coup, j'étais bloquée. Quoi. Mais j'ai réussi avec la force de mes poings et un couteau. Au risque de ma vie, mais ouais. Tu es arrivée.
Est-ce que tu as des conseils pour les étudiants et les étudiantes en termes d'ustensiles ? Est-ce que selon toi, il y a des investissements qui sont plutôt pratiques à faire ou des trucs sympas à demander, à se faire offrir pour son anniversaire ou autre ?
Ah bah oui, assez clair. J'avais fait même une liste de tout ce qu'il faut dans la cuisine. Bon, après, il faut y aller step by step, tu vois. Mais ouais, il y a un moment où t'es obligé d'investir dans une bonne casserole, dans une bonne poêle pour faire des plats. Moi, je pense que le four n'est pas un indispensable, mais si tu peux en avoir un, tant mieux. Donc ouais, là, clairement, il faut, là, pour Noël, pour les anniversaires, faut demander ce genre de choses une fois que t'as un appart. Parce que t'auras beau être très talentueux, t'auras beau être, même avoir de l'argent pour faire des bonnes courses. Si t'as pas le matériel, c'est compliqué. Il y a des moyens, tu sais, genre, à Action, qui est le magasin de ma vie, tu peux, pour 30 euros, t'as toute ta cuisine, tu vois. Donc, non, c'est indispensable.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours plein de bonnes affaires chez Action, notamment les casseroles et autres. Il y a plein de trucs vraiment pas chers pour s'équiper. Alors, selon toi, toi qui es actuellement étudiante, qu'est-ce que le Covid a changé dans la vie des étudiants et des étudiantes ? Toi qui es aux premières loges pour l'observer, et dans ta vie et dans celle aussi de tes potes ?
Alors, la précarité étudiante, elle a toujours existé. Et je pense qu'il y a un peu une erreur qui est faite de penser que ça vient vraiment que du Covid et que ça vient de naître il y a quelques mois. Mais la précarité, le Covid a amplifié cette précarité chez ceux qui l'étaient déjà et a même rajouté de nouveaux précaires, tu vois, ceux qui ont perdu leur job étudiant, ceux qui... n'ont pas trouvé de stage, n'ont pas trouvé d'alternance, etc. Donc financièrement, évidemment, ça a été compliqué pour beaucoup. Toutefois, je pense... Alors, j'avais fait un mini-sondage, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a valu au moins quelque chose pour ma communauté. Et là où il y a eu des véritables ravages, c'est au niveau de la santé mentale. C'est hyper compliqué, l'isolement. Surtout que quand t'es jeune, t'as une vie sociale qui est dynamique, tu vois. Tu vas au ciné, tu vas avec tes potes, tu as des fêtes étudiantes, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, mais au moins tu vois tes camarades de classe. Là, c'est le néant absolu depuis plusieurs mois. Et ce qui est même encore pire, c'est que on ne sait pas ce qui va se passer, tu vois. on n'a pas de chaque semaine on a un discours qui est un peu flou, tu vois, où on nous dit non, c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, etc. Et du coup, comme il n'y a pas de véritable trajectoire, alors que dans d'autres pays, des décisions ont pu être prises plusieurs mois à l'avance pour les mois d'après, voire l'année, et bien du coup, on est un peu dans une sorte de flou, et puis en plus, on voit personne, et puis financièrement, c'est la galère. C'est toute une sorte de bulle où t'es... Où je comprends qu'il y en a qui broient beaucoup de noir, tu vois, puisque le présent est déjà compliqué et l'avenir, tu vois, je t'en parle même pas, c'est compliqué là de voir l'avenir, de croire en l'avenir. Après, moi, je veux toujours porter un message qui va être positif et qui va être entraînant, parce que je pense que c'est aussi mon rôle, tu vois, en tant que blogueuse, en tant que personne qui est suivie par des milliers de personnes. J'ai pas envie d'être défaitiste, parce que, au contraire, je veux les encourager, tu vois, mais il y a quand même un constat qu'il y a à faire, c'est que c'est compliqué.
Oui, donc c'est clair que dans ce contexte où on ne peut pas forcément multiplier les moments de convivialité, Internet, ça devient vraiment un lieu où on peut se retrouver, partager son vécu et voilà quoi, sans s'entraider au maximum. Est-ce que pour terminer, tu peux donner quelques conseils dans une bonne attitude peut-être à avoir pour essayer de garder le cap, de garder le moral?
Je pense que la première chose à faire, c'est de s'écouter et surtout ne jamais être malveillant avec soi-même, tu vois. Ne pas aller bien en cette période, c'est tout à fait normal. Ça sert à rien d'exagérer dans la positivité. C'est normal de pas aller bien. Et quand on va bien, il faut s'écouter. Donc, il faut agir rapidement. Et faut penser à en parler autour de soi. Des fois, on s'en rend pas compte, mais il y a des personnes autour de nous qui vont pas bien. Et peut-être qu'en partageant ça avec elles, bah, du coup, elles aussi, elles vont se sentir soutenues. Donc voilà, il faut s'écouter, il faut en parler. Et surtout, quand on pense aller plutôt bien, quand on pense qu'on s'en sort plutôt bien, il faut quand même rester vigilant envers ses camarades, envers ses amis, puisque peut-être qu'eux aussi ont des peines et nous le disent pas. Donc voilà, rester vigilant les uns avec les autres, s'écouter, ne pas être malveillant, rester bienveillant avec soi-même. Et après, voilà, c'est la vérité, c'est compliqué, c'est difficile de croire encore en quelque chose, mais il faut essayer de s'encourager, il faut essayer de se rappeler de tous les efforts qu'on a mobilisés jusque-là. Certains ont quitté leur famille, certains habitent des logements étudiants depuis des années, des logements qui ne sont pas forcément toujours confortables. Donc on est des battants, mais voilà, il faut se le rappeler, et surtout, si jamais on sent que ça ne va pas bien et que là on a besoin de s'arrêter, eh bien on s'arrête. On s'arrête, on en parle à des professionnels, on en parle à son entourage, et on ne se laisse pas submerger. Ça ne vaut pas le coup. Les études ne valent pas le coup de se perdre dedans, tu vois.
Imen n'a pas été une ministre comme les autres. Contrairement à la grande majorité des élus, elle n'est pas spécialement attachée à son titre et au pouvoir que celui-ci lui confère, puisque ce qui compte pour elle, c'est aujourd'hui que le ministère tourne en toute horizontalité, sans elle. Ce qu'elle dit à propos de la santé mentale est également très important. Aujourd'hui, 7 étudiants sur 10 se disent inquiets pour leur santé mentale, comme on peut l'apprendre dans une étude du Figaro étudiant, qui révèle notamment que 79 d'entre eux redoutent leur insertion sur le marché de l'emploi. Pour rompre l'isolement, mais aussi remplir les estomacs des camarades en difficulté, Tariq Oukil est l'un de ceux qui ont choisi de mettre la main à la pâte. Originaire de Rennes, Tariq est arrivé à Montpellier en septembre pour suivre un master de droit des personnes et de la famille. Quand il a cherché à louer un appartement, son critère principal était d'avoir une grande cuisine, peut-on lire dans un article du Midi Libre qui lui est consacré. Pendant le confinement, l'étudiant en master a eu l'idée de faire à manger pour les autres. Des ramen, des tagines aux olives ou aux pruneaux, des feuilles de briques au thon, des rouleaux de printemps. En 3 jours, après son annonce Facebook, 7 jeunes sont venus chercher à manger chez lui avec leur boîte en plastique sous le bras. Tariq nous raconte.
Il y a de cela 2 mois, j'ai pris l'initiative de proposer mon aide aux étudiants dans le besoin en cuisinant pour eux toutes sortes de plats. Comme je suis passionné de cuisine, je prends beaucoup de plaisir à le faire et ça me permet aussi de m'améliorer puisque je m'adapte selon les goûts de chacun. L'idée, elle m'est venue lorsque je rentrais dans le footing et que j'ai croisé l'un de mes voisins, lui aussi étudiant, qui m'a clairement dit que la situation était beaucoup trop difficile pour lui et que sa priorité, c'était pas de remplir le frigo, mais de payer son loyer puisqu'il avait perdu son contrat étudiant suite aux circonstances sanitaires. Donc naturellement, je lui ai dit que j'allais me charger de lui faire ses plats tous les jours. Et prenant conscience qu'il n'était pas le seul, j'ai décidé de publier un message sur le groupe Facebook des étudiants de Montpellier pour aider ceux qui étaient dans la même situation. Même si je n'avais pas réellement les moyens financiers pour assumer pleinement ce rôle, je me disais que les économies faites sur les sorties et les habitudes que j'avais avant l'épidémie pouvaient me servir à en aider plus qu'un. Du coup, c'est un peu comme ça que l'initiative est née. Pour ce faire, du coup, je m'adapte selon les régimes de chacun. Certains ne mangent pas de viande, d'autres sont réticents sur certains aliments, etc. Du coup, je fais en sorte qu'ils puissent venir sans gêne, car c'est jamais très facile que d'assumer une situation aussi délicate, surtout quand on est étudiant. Du coup, lorsqu'ils viennent remplir leur tupperware, je parle un petit peu avec eux et je comprends que pour la plupart, c'est plus qu'une simple difficulté financière, en ce sens que certains ont le moral au plus bas, n'arrivent pas à s'en sortir dans leurs études et ne voient personne. Pour être moi-même étudiant, je peux que constater tout ça et dire que la précarité étudiante, à l'heure actuelle, elle se résume plus à un aspect financier, mais davantage social, dans le sens où, pour certains, c'est vraiment difficile de vivre loin de chez eux, seul, et surtout lorsqu'on n'a pas eu le temps de se faire des amis dans la nouvelle ville où on est arrivé. N'oublions pas qu'il y a des profils pour lesquels la situation elle va de pire en pire, si bien qu'on ne peut que constater la grande augmentation du taux de dépression chez les étudiants. Et pardonnez-moi, mais il n'y a rien de normal à être dépressif à 20 ans, surtout que c'est censé être la meilleure période dans sa vie. Donc, si on prend en compte le nombre d'étudiants qui se sont lancés dans le défi de changer de ville, d'être plus autonome et de faire de nouvelles rencontres, surtout quand on sait que certains ont contracté des prêts, d'autres ont passé leur été à trouver un appartement, et c'est sans compter ceux qui, comme moi, ont subi la pression de la sélection en Master 1. Accumuler tout ça, si on y ajoute la pression des cours, l'absence de vie sociale, on se retrouve avec une génération sacrifiée et que l'on ne cesse de pointer du doigt dès lors que l'épidémie repart, et qui, au même titre que les commerçants et les restaurateurs, attend à chaque intervention des acteurs politiques que l'on s'intéresse à eux et qu'on dise quelques mots à leur sujet. Moi, à titre personnel, ça me motive plus que jamais à reprendre mon initiative, car même si avec les fêtes de fin d'année, chacun est un peu rentré chez soi pour profiter de sa famille, je compte bien relancer un petit peu l'initiative prochainement, surtout dans l'hypothèse où on serait confiné une nouvelle fois, de manière à en aider plus d'un. D'autant plus que j'ai pu constater que d'autres étudiants ont entrepris des initiatives similaires, et c'est selon moi ça qui nous permettra de survivre dans cette période, à savoir rester solidaires.
Si vous êtes étudiant, étudiante en difficulté, n'hésitez pas à solliciter de l'aide autour de vous. D'abord en ne restant pas seul et en discutant avec vos camarades, mais aussi en vous rapprochant de structures en mesure de vous aider. En description de cet épisode, vous trouverez des liens vers des associations et banques alimentaires. Merci à Imane Bounou et à Tariq Oukil de nous avoir donné de leur temps pour parler de cuisine et de précarité étudiante. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Charline Yao. Montage et mixage par Thibaut Delage, générique réalisé par Aurore Meyer-Maillot.